Cette semaine, Raphaël Bourgois rencontre Françoise Gaspard. Ce soir, Dreux, l'éveil politique.
Bonsoir Françoise Gaspard.
Bonsoir Raphaël Bourgois.
Merci de nous recevoir chez vous pour cette série d'entretiens à voix nue. Françoise Gaspard, vous êtes historienne et sociologue, vous avez été aussi femme politique, féministe, on aura le temps de revenir d'ailleurs sur votre conception du féminisme. Votre trajectoire vous a emmené de mandats locaux, vous avez été maire de Dreux, à des mandats de députée de la Nation et de députée européenne, mais aussi, à part cette action politique, on peut trouver une action associative et évidemment une action de recherche. À chaque fois, ce sont des engagements, des combats en faveur de l'égalité. Vous avez porté pendant des années la question de la parité. Évidemment, la parité entre hommes et femmes dans la vie politique, finalement adoptée par la loi en 2000. En 1989, vous avez quitté la vie politique pour vous consacrer à la recherche, pionnière des études qu'on appelle maintenant les études de genre, peut-être d'ailleurs qu'on les appelait déjà comme ça à l'époque, vous nous direz. Et vous avez aussi mené de nombreuses réflexions sur la question du voile qui, au début des années 90, évidemment, commence à agiter le débat public. La question qui vous anime, si on doit la résumer, ce serait celle de la République face à ces différences. Mais l'action n'est jamais très loin et vous êtes en tant qu'experte auprès de l'Union européenne ou de différentes agences onusiennes pour traiter évidemment des questions concernant les inégalités entre hommes et femmes, entre femmes et hommes dans le monde. Voilà, experte toujours pour cette question du droit des femmes et des minorités. On va parler de tout ça au cours de ces cinq entretien, mais d'abord, commençons par le commencement si vous le voulez bien, Françoise Gaspard. Vous êtes née à Dreux le 7 juin 1945, vous êtes donc une enfant de la Libération.
Tout à fait, je suis née exactement 10 mois après la libération de Dreux, qui a eu lieu le 16 août 1944. Mon père étant dans la clandestinité depuis 1943, il avait souhaitait échapper au STO. Il était marié depuis 1941 avec ma mère, mais il était hors de question, évidemment, que ma mère soit enceinte avant la libération. Donc je suis née juste 10 mois après la libération de la ville.
Et quelle enfance alors vous menez dans cette ville qui est à côté de Paris, dans l'Eure-et-Loire ?
Je vais à l'école maternelle d'abord, puis à l'école primaire, qui est une école à l'époque, qui n'est pas mixte encore, qui sont des écoles de filles. Et j'ai une institutrice absolument formidable, Madame Maréchal. Et je lui dois beaucoup. J'étais la seule élève de la classe à ne pas aller au catéchisme. Je n'étais pas baptisée. Et mes petites camarades, au cours de la récréation, faisaient des rondes autour de moi en disant « tu iras en enfer, tu iras en enfer ». Donc je n'allais pas au catéchisme, mais le curé venait à la porte de l'école chercher les petites filles qui allaient au catéchisme. Mais il venait un quart d'heure avant la fin de la classe. Et Madame Maréchal demandait à mes condisciples de fermer très discrètement leurs livres, leurs cartables, de sortir, et elle continuait le cours pour moi toute seule jusqu'à l'heure où sonnait la cloche de l'école. Et un autre souvenir de cette époque est lié aussi à cette affaire de différence entre mes camarades et moi. En 1954, Madès France devient président du Conseil. Et il décide, en raison des carences alimentaires que connaissaient alors de nombreux enfants, de donner à la récréation de 10 heures un verre de lait aux écoliers et aux écolières. Mes petites camarades refusent d'aller boire le lait du juif. Je vais, alors que je détestais le lait, boire en bonne jeune mendésiste, mon verre de lait à 10 heures.
Jeune mendésiste, Françoise Gaspard, il faut dire que vous êtes issue d'une famille politisée, c'est un vrai front populaire chez vous, des radicaux, des socialistes, des communistes, évidemment, et vous avez un grand-père, notamment, qui est un homme politique et qui est proche de Pierre Mendès France.
Mon grand-père est membre du parti radical. Il a été suffragiste avant la Deuxième Guerre mondiale. Et lorsque Madès France vient à Dreux, passe à Dreux, puisque cette circonscription n'était pas très loin de Dreux, dans l'heure, il s'arrête quelquefois, effectivement, à la maison pour boire un café. Donc j'ai effectivement une profonde admiration pour Pierre Madès France.
Et donc ce grand-père maternel, on peut dire que c'est votre premier contact avec la politique, votre premier renseignement, que vous tombez dans la politique assez jeune en définitive.
Oui, mais les déjeuners et les dîners de famille sont agités parce que mon grand-père donc est membre du Parti radical, son frère qui est beaucoup plus riche que lui, beaucoup plus fortuné, est membre du Parti communiste. Quant à mon père, il a adhéré très très jeune, avant la Seconde Guerre mondiale, à la SFIO, notamment dans le cadre de l'accueil des réfugiés espagnols en 1936, 37, 38, dont Violette, le maire de Dreux, s'est beaucoup occupé.
Justement, parlons-en de Maurice Violette, qui a donc été maire de Dreux de 1908 à 1959. 51 ans, c'est quand même une certaine période, c'est quelque chose. Donc, maire historique de Dreux, mais c'est aussi un personnage important de la Troisième République. Il sera aussi, il siégera à la Constituante après la Seconde Guerre mondiale. Vous avez écrit deux livres sur lui. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? En quoi c'est une figure qui est marquante pour vous, qui est importante?
Oui, c'était un maire emblématique de la Troisième et de la Quatrième République. Il a été élu très très tôt, effectivement, à Dreux. Il a été ministre en 1917 du ravitaillement et de nouveau ministre en 1936 du Front populaire, où il est notamment chargé de l'Algérie, dont il a été gouverneur général pendant plusieurs années, je crois entre 1924 et 1927 ou 28. Donc il connaît bien l'Algérie et il est à l'époque favorable à donner le droit de vote à un certain nombre d'Algériens qui n'ont pas évidemment le droit de vote à l'époque, en particulier à ceux qui sont engagés dans les combats et en 1914 et en 1939. Il n'y obtiendra pas, il fait un projet qu'il présente à l'Assemblée nationale, mais qui ne sera jamais voté.
Le projet Blum-Violette,
le
droit de vote à 25 000 Algériens de l'élite, et il a cette idée selon laquelle voilà, on a un peuple qui réclame une patrie, pour l'instant il réclame la France, je plagie un peu ces mots, pour l'instant il réclame la France, et si on ne leur donne pas, ils finiront par réclamer leur propre
absolument,
patrie.
Absolument. Donc c'était un progressiste, c'était... Alors, il était radical, mais il a jamais été... Il était radical socialiste. C'était un homme relativement indépendant par rapport au parti politique. Il avait son parti à lui, et il était effectivement très, très autonome par rapport à la ligne des radicaux et très en avance sur la classe politique de l'époque.
Et alors, qu'est-ce que cet exemple vous transmet comme conception de la politique, conception de la République, peut-être?
J'ai une admiration pour Violette, bien entendu, et très tôt, je crois que c'est lié à mon grand-père. Quand j'étais enfant, au mois de mai, quand arrivait la saison du muguet, nous allions souvent dans la forêt de Rambouillet, et nous passions devant la mairie de Rambouillet. Et chaque fois, mon grand-père m'a montré cette mairie en me disant « Tu vois ici ?» C'est une femme qui est mère. C'était Jacqueline Tompatnaud, qui a été également plus tard sénatrice et secrétaire d'État. Et je me souviens d'un déjeuner justement chez mon institutrice, Madame Maréchal, où un jour on me demande ce que je veux faire plus tard. Je devais avoir 10-11 ans et je dis « je veux être mère de Dreux ». On m'interroge pour savoir les raisons de... Alors, maire de Dreux, c'est parce que, comme Jacqueline Tompatnaud était un modèle, pourquoi pas? Je pense justement que les modèles pour les filles sont importants. J'aurais jamais pensé être mère de Dreux s'il n'y avait pas eu dans cette enfance cette femme qui, très tôt, avait eu une mairie.
Est-ce que vous avez reçu une éducation où on vous a enfermé dans votre condition de petite fille, de femme, pour plus tard? Ou est-ce que vous avez une éducation plutôt ouverte à ce titre-là? On est quand même dans la France des années 50, d'avant 68, on va dire, voilà, qui est quand même une France très, à ce titre-là, assez sclérosée, très...
Oui, mais on me considérait un peu comme un garçon manqué à l'époque. Je jouais au foot avec les garçons du quartier. J'accompagnais mon père qui jouait au foot sur le stade. Il faisait également de la boxe et on m'avait offert très tôt, fabriqué pour moi, des gants de boxe. Et je tapais dans le punching ball pendant que mon père s'entraînait. Donc je n'avais pas le sentiment que quelque chose pouvait m'éviter de faire le métier que je voulais.
Vous avez parlé de l'Algérie en parlant de Maurice Violette. Est-ce que, puisque c'est quand même la grande affaire tournant des années 50 et des années 60, est-ce que ça a compté pour vous dans votre éveil à la politique? Est-ce que c'est cette question de la désindépendance, pour le dire au pluriel, puisqu'il y a l'Algérie, mais il y aura ensuite l'Afrique de l'Ouest, évidemment. Est-ce que ça a compté pour vous?
Mon père a quitté la SFIO en raison des positions de la SFIO et en particulier de Guy Mollet sur l'Algérie. Et il a aidé les forces qui étaient pour la dépendance de l'Algérie. On a d'ailleurs eu un problème. Le député de l'époque avait été, qui était gaulliste, avait été plastiqué et on avait désamorcé une bombe devant chez mes parents dans cette période. Donc effectivement, la question algérienne était très présente dans la famille, dans nos esprits, dans mes positions.
On y reviendra, vous allez travailler plus tard sur la question de l'immigration, dès 1984, avec La fin des immigrés, un livre que vous coécrivez avec Claude Servan-Schreiber. Est-ce que cette expérience a nourri cette réflexion sur ces immigrés? À Dreux, il y a beaucoup d'immigrés d'Afrique du Nord sur ces questions-là.
Dreux a toujours été une ville d'immigration. D'abord des Portugais et des Espagnols d'abord, puis des Portugais. La ville s'est industrialisée dans les années 50 et 60. Il y avait des industries importantes, il y avait Ulysse Renault, il y avait la radiotechnique qui fabriquait des téléviseurs en couleur. Et une fois absorbée une immigration de l'intérieur, en particulier bretonne, il a fallu faire appel pour Dreux, pour les entreprises locales, à des étrangers venus de la Méditerranée. Donc, très tôt, effectivement, des Marocains, des Tunisiens et des Algériens sont arrivés à Dreux. Par ailleurs, dès 1962, sans doute aussi en raison des positions de Violette, Dreux a été une ville d'accueil des Harkis. Donc, une population extrêmement mêlée, avec des tensions d'ailleurs, entre les Algériens et les Harkis, évidemment, mais une ville très cosmopolite, avec une population, vous disiez, algérienne, mais pas seulement.
Ça aura évidemment son importance quand il s'agira d'aller conquérir cette mairie de Dreux, mais restons un tout petit peu dans ce début des années 70. Vous choisissez des études d'histoire, de sciences politiques, vous irez plus tard à l'ENA, l'École nationale d'administration, au milieu des années 70. Pourquoi avoir choisi ce cursus honorum alors?
Je ne savais pas très bien ce que je voulais faire. Donc j'ai commencé des études d'histoire, j'avais été présentée au concours général d'histoire en terminale, et je venais de découvrir aussi que, à la fin de mon hippocagne, que je pouvais entrer à Sciences Po sans passer d'examen, parce que j'avais eu une mention bien au bac. Donc je suis entrée à Sciences Po en même temps qu'à la Sorbonne, tout en étant déjà très impliquée dans les mouvements politiques, à l'UNEF pour le syndicalisme étudiant. Et quand je suis entrée à Sciences Po en 65, c'était l'ouverture de la campagne des élections présidentielles de 65, les premières élections au suffrage universel. Dès le début septembre, François Mitterrand a annoncé sa candidature et j'ai monté à Sciences Po un petit groupe d'étudiants pour soutenir François Mitterrand. Et Mitterrand, d'ailleurs, est venu à Dreux au tout début de sa campagne. Je pense qu'il arrivait de Chartres. Il est venu en avion sur le terrain d'aviation de Dreux, où j'ai été chargée de l'accueillir. Et ça a été ma première rencontre avec François Mitterrand, qui m'a ensuite inclus dans le groupe des étudiants qui le soutenaient à la Convention des institutions républicaines, à laquelle d'ailleurs je n'ai pas adhéré.
Je crois qu'à l'époque, vous étiez adhérente du PSU, vous avez adhéré à ces
plus
jeunes,
tard.
C'est ça? Plus tard?
En 66 ou 67.
66 ou 67. Alors justement, 68 arrive. Comment vous vivez, vous, mes 68, puisque vous êtes étudiante?
Je vis le mouvement de 68 un peu comme Fabrice à Waterloo.
Regardez de loin.
Je
sans
regarde.
Sans vraiment savoir où est-ce que vous êtes.
Voilà, non, je vais du quartier latin à Sciences Po. Sciences Po est occupé le 13 mai au soir. La seule fois où j'interviens pendant ces journées de mai, c'est le soir de l'occupation de l'Odéon, où je monte sur la tribune. J'étais une grande admiratrice de Jean-Louis Barrault et de Madeleine Renaud, en exhortant les étudiants de sortir de l'Odéon et d'aller plutôt occuper le ministère de l'Intérieur. Je me fais siffler abondamment et c'était ma seule intervention de tout mai 1968.
Pour défendre le théâtre en définitive. Françoise Gaspard, je l'ai dit, vous avez été à l'École nationale d'administration, vous sortez et vous choisissez la magistrature administrative, c'est ça? Vous êtes au tribunal administratif de Versailles?
Alors, ce qui se passe, c'est que donc je rentre à l'ENA en 1975 et je suis élue maire de Dreux en 1977, avant la sortie de l'ENA. Je manque une épreuve, je suis séquestrée par la CGT à Dreux le jour de l'épreuve de maths. Donc j'ai eu zéro, mais j'aurais eu zéro de toute façon. Donc j'ai pris les tribunaux administratifs parce que c'était le job qui me permettait de concilier la mairie de Dreux et mon travail au tribunal administratif, où je ne siégeais qu'une journée par semaine et je faisais mes dossiers du tribunal la nuit. Donc j'ai eu 2 ans avant l'élection au Parlement européen où je suis devenue députée, où j'ai pu être détachée du tribunal administratif. J'ai eu 2 années extrêmement lourdes entre le tribunal et la mairie.
J'imagine, Françoise Gaspard. Alors, parlons-en justement de cette conquête de la mairie de Dreux. Comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce que vous prenez la décision? Comment se passe la campagne à cette époque-là? Vous briguez une ville qui, je crois, est d'environ 30 000 habitants à ce moment-là, et vous serez, une fois élue, la première femme à diriger une ville de cette ampleur-là.
En fait, j'avais été candidate dès 1973, à des cantonales à Dreux. Après le congrès d'Épinay, François Mitterrand, qui en avait pris la tête du Parti Socialiste, avait décidé qu'il fallait mettre des candidats partout au cantonal de 73. Et j'avais été désignée, d'ailleurs en mon absence, dans un canton de Dreux, où je ne risquais pas d'être élue. C'était un très mauvais canton pour la gauche, mais j'ai fait un bon score, au sens où jusque-là, le Parti Socialiste avait été derrière les communistes et je suis passée devant les communistes. En 1976, le canton, qui était un canton nouveau, avait été tiré au sort pour être de nouveau renouvelé. Et là, j'ai failli mettre en ballottage le maire de Dreux, conseiller général sortant. Donc j'étais bien placée pour être tête de liste à Dreux en 1977. Donc j'ai fait, c'est drôle, j'ai fait une liste dont je souhaitais d'ailleurs, à l'époque, on parlait pas de parité, mais dont je souhaitais qu'elle soit paritaire. J'étais pas arrivée, mais avant il y avait un peu plus de 30% de femmes sur la liste, et la campagne a été, parce que effectivement j'étais la seule femme candidate dans une ville de plus de 30 000 habitants pour le Parti Socialiste, la campagne a été ouverte à Dreux par François Mitterrand. C'était la première sortie de François Mitterrand pour ses municipales. Et quand je l'ai ramené à sa voiture, quand il est reparti vers Paris, Il m'a dit, c'est courageux ce que vous faites, parce que évidemment, vous n'avez aucune chance. Effectivement, Jean Cochon avait été élu la fois précédente avec 65% des voix. Je lui ai dit, vous savez, je sais pas, je sens un frémissement, je sens qu'il y a quelque chose qui se passe. Il m'a dit, écoutez, si vous gagnez avec un grand sourire, il pensait absolument pas que ma liste pouvait l'emporter, on fera la première réunion de tous les élus de 77 à Dreux, ce qui s'est fait.
Il a tenu parole
Il a
puisque vous
tenu
avez
parole.
été élue Françoise Gaspard. Cette expérience de maire à Dreux, vous l'avez racontée dans un livre, une petite ville de France, c'était publié chez Gallimard en 90, donc quelques années plus tard. Il était question aussi, si vous me permettez, on va sauter un petit peu les années, puisqu'en 1983, Dreux est l'enjeu, évidemment, au cours des municipales, d'un affrontement inédit qui nous parle aujourd'hui. C'est l'arrivée du Front National avec Jean-Pierre Stirbois, qui est alors secrétaire général du FN et qui fait alliance avec la droite pour vous contester à la mairie. D'abord, comment est-ce que vous voyez arriver cette alliance? Est-ce que vous prenez conscience tout de suite que c'est un vrai danger ou comment dire, est-ce que vous vous sentez menacé directement, Françoise Gaspard?
Stirbois avait été candidat à des élections cantonales, je crois, depuis 76. Je l'avais vu arriver, faisait pas grand-chose comme résultat, mais je voyais une dynamique et en plus Dreux n'est pas très loin de Paris et ses troupes envahissent Dreux, sont très présentes dans la ville. Il fait des campagnes extrêmement dynamiques. Oui, je vois qu'il y a un risque. Je n'imaginais pas, en tout cas, qu'il y ait au mois de mars 1983 une alliance entre le Front national et la droite classique.
C'est vrai qu'il y a, à Dreux, quand on regarde a posteriori, on voit que le Front National expérimente des méthodes ou des argumentaires qu'il réutilise jusqu'à aujourd'hui. Vous avez parlé de cette façon d'occuper le terrain, on peut dire. Il y a même aussi un début de dédiabolisation avec Jean-Pierre Stirbois qui fait très attention à ce qu'il n'y ait pas de débordement, de violence, qui présente bien, comme on dit.
Un journaliste, je crois, du Nouvel Observateur, ils avaient suivi les militants de Stirbois. Ils allaient dans les immeubles où il y avait un mélange entre population d'origine étrangère et français dits de souche. Ils sonnaient chez ces 10 Français, en ne se présentant pas comme des militants d'un parti, mais comme des vendeurs de télévision ou de chaînes IFI, etc. Et quand les gens leur disaient, mais j'ai pas les moyens, ils répondaient, mais vous savez, Mohamed qui habite en dessous de chez vous en a acheté trois. Donc c'était une campagne qui était assez incroyablement maligne de la part de l'extrême droite. C'était le début de la récession à la suite du choc pétrolier de 74-75 et un tout début de désindustrialisation de la ville. Donc un contexte effectivement favorable pour l'extrême droite.
Oui, c'est évidemment l'année 83 du fameux tournant de la rigueur. Est-ce que la campagne que vous menez donc en 83 avec ce slogan, je crois, Vivre ensemble, qui évidemment résonne aussi aujourd'hui particulièrement à nos oreilles, est-ce que vous avez pu me dire qu'elle a été, comment dire, contestée, et notamment dans cette idée que vous en faisiez trop pour les immigrés? Est-ce que c'est quelque chose qui vous a été dit à cette
Oui,
époque-là?
tout à fait. Et en particulier, j'étais favorable au droit de vote des étrangers, en tout cas au niveau communal, ce que, y compris au sein du Parti socialiste, on n'était pas tout à fait prêt à avancer.
Jusqu'à aujourd'hui.
Et j'avais toute une argumentation pour ça. Je considérais que ces femmes et ces hommes qui avaient pour la plupart déjà vécu en France, vivaient dans nos quartiers, et que c'était le meilleur moyen de les intégrer dans la vie de la cité, de les prendre en considération et qu'ils prennent aussi en considération les intérêts de la ville.
Alors, il faut dire quand même que ces élections de 1983, vous les gagnez au premier tour, on va dire, quand elles ont lieu au mois de mars, je crois, mais vous ne les gagnez qu'une courte avance et donc elles vont être contestées.
Oui, nous gagnons avec 8 voix d'avance. il y a un recours de la part de la liste de droite qui est menée par un gaulliste, ou qui se dit gaulliste, Jean-René Fontanille, un avocat, qui a fait alliance avec le Front National.
Une liste qui s'appelle Dreux d'abord.
Donc il y a un recours auprès du tribunal administratif qui annule l'élection en raison de 9 voix litigieuses. À la direction du Parti Socialiste, on me presse de faire appel de ce jugement. Je refuse. Je refuse en disant qu'il faut mieux aller à des élections très vite parce que la situation locale est empoisonnée. Et je décide également de ne pas reprendre la tête de liste sans tant que mes positions étaient effectivement contestées par une partie de mon camp. Donc il y a des élections. Et là, le Front National décide de ne pas faire alliance avec la droite. Le Front National, au premier tour, remporte 17% des voix, ce qui est un score que le Front National n'a jamais eu jusque-là. Au second tour, il y a une alliance entre le Front National et la droite, et c'est la droite qui remporte les élections. Je siège dans le conseil municipal et je vais avoir à subir la présence de Jean-Pierre Stirbois au conseil municipal dirigé par Jean Yeo pendant les 6 années suivantes.
Oui, parce qu'il faut dire qu'il n'y a pas de Front Républicain à l'époque. Le RPR, Jacques Chirac, ne donne des consignes contre tout type d'alliance, même au niveau local, qu'en 1985. Il y a un argumentaire, c'est le Parti Socialiste est bien mal placé pour nous faire la morale, lui qui a des ministres communistes à son gouvernement. Mais ce sur quoi j'aimerais vous entendre, c'est cette idée qui s'est beaucoup développée, selon laquelle le Front National était un peu une créature de François Mitterrand, qui lui a échappé, puisque François Mitterrand aurait manipuler, utiliser le Front National contre la droite. Quel regard vous portez sur cette idée ?
Je ne crois pas que ce fut le cas à ce moment-là, en 83. Peut-être ensuite, lorsque François Mitterrand a décidé d'introduire de la proportionnelle pour les élections de 1986, lorsqu'il a vu qu'il y avait une montée, parce qu'à la suite de 1983, le Front National a continué à monter. On l'a vu aux élections européennes de 1984, que le score de 17% à Dreux en septembre 83 était maintenant un score sur toute la France. Et à partir de ce moment-là, effectivement, François Mitterrand a souhaité, pour gêner la droite, que la proportionnelle puisse mordre sur la droite avec des élus du Front National.
Merci beaucoup Françoise Gaspard. On se retrouve demain et on parlera de votre engagement auprès du Parti Socialiste justement pour la parité et sur la question du féminisme.
Et demain, la suite de cette rencontre de Raphaël Bourgois avec Françoise Gaspard. À voix nue, attaché d'émission Claire Poinsignon, prise de son Christophe Papon, Yvan Turc, réalisation Vincent Deck, attaché d'émission Claire Poinsignon. Cette émission s'écoute en ligne et se podcast sur franceculture.fr.